RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, le début de la guerre commerciale déclarée par Donald Trump.
Le président américain met ses menaces à exécution et valide les droits de douane imposés au Canada, au Mexique et à la Chine qui promettent de répliquer avec des mesures similaires. La trêve entre Israël et le Hamas entre dans sa troisième semaine. Les négociations pour la deuxième phase de l'accord débutent demain. Benjamin Netanyahou se rend à Washington pour en parler. Les combats entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda se poursuivent dans l'est de la RDC, dans le sud Kivu. Un conflit qui s'invite jusque dans le sport. Kinshasa demande à des clubs de foot européens de prendre leur distance avec Kigali. Au Bangladesh, le deuxième plus grand pèlerinage musulman au monde. Et puis un nouveau record à battre pour Beyoncé. Déjà artiste la plus titrée de l'histoire aux Grammy Awards, elle est nommée ce soir dans 11 catégories, notamment pour le meilleur album de l'année.
Le bras de fer est engagé entre les États-Unis et ses voisins.
Le président Donald Trump vient de lancer une guerre commerciale. Il a officialisé les droits de douane contre le Mexique et le Canada avec une taxe de 25% sur leurs importations et qui devrait entrer en vigueur au plus tôt après-demain, mardi. Donald Trump veut ainsi lutter contre le trafic de drogue et l'immigration illégale. Aussitôt, le Canada et le Mexique ont répondu et assurent qu'ils vont faire de même. À Mexico, Gwendolina Duval.
Le gouvernement mexicain, qui n'avait cessé d'appeler au calme et à l'apaisement, a répondu cette fois-ci avec un ton beaucoup plus dur. Dans un long post sur le réseau X, la présidente Claudia Sheinbaum rejette les accusations du président américain sur les liens entre les autorités mexicaines et les groupes criminels. Elle parle de calomnie et rejette même le blâme sur l'accusateur. Selon elle, s'il existait une alliance entre un État et les cartels, elle viendrait plutôt de la part des États-Unis qui acceptent de leur vendre des armes. Elle invite également son homologue à prendre des mesures pour combattre les vendeurs de drogue sur son propre territoire et lutter ainsi contre un problème de santé qui concerne surtout les États-Unis. La chef d'État répète que le Mexique ne cherche pas de confrontation avec Donald Trump, mais pour autant il n'a pas l'intention de se laisser faire. Sans donner plus de détails, Claudia Sheinbaum indique qu'elle a également donné l'ordre de mettre en application un plan pour protéger les intérêts économiques de son pays, avec entre autres des mesures pour installer à son tour des tarifs douaniers. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
La Chine va aussi subir des droits de douane à hauteur de 10%. Pékin promet de répliquer avec des mesures similaires et compte contester la décision américaine auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les guerres commerciales n'ont pas de vainqueur, prévient aussi la Chine.
Et déjà, l'administration américaine s'attaque à une autre promesse de Donald Trump.
Le président veut reprendre le contrôle du canal de Panama car il accuse la Chine de contrôler officieusement l'infrastructure. Donald Trump a donc envoyé son chef de la diplomatie au Panama pour évoquer la question. Marco Rubio rencontrera le président José Paul Mulino, également des responsables de ce canal à Panama City. Correspondance de Grégoire Pourtier.
Pour sa première visite dans un pays étranger, Marco Rubio va-t-il se montrer aussi agressif que Donald Trump ? Le secrétaire d'État arrive au Panama en pleine crise diplomatique après les déclarations inattendues du président américain qui menace de récupérer le canal, quitte à employer la force. La députée indépendante Valkyria Chandler-Dorsey, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, est effarée par les revendications et les accusations de Donald Trump.
Nous savons que c'est un négociateur. Il a même pu se comporter de façon brutale envers certaines autres nations. Ce qu'il cherche probablement avec ces menaces, c'est à prendre le dessus avant d'entamer des discussions. Pour nous, le principal, c'est notre souveraineté sur le canal, qui est non négociable. Il appartient et continuera d'appartenir au Panama et aux Panaméens. Notre position est d'appeler à des discussions politiquement adultes en se basant sur les traités pour que soit respecté le droit international.
Les Panaméens insistent sur l'uniformisation des tarifs ajustés en fonction de la taille du bateau et de la valeur de sa marchandise. Même s'ils sont largement les principaux utilisateurs du canal, les États-Unis sont donc traités comme les autres pays sur le plan commercial. En revanche, ils bénéficient déjà d'avantages pour leur marine militaire et ont grand besoin de la collaboration du Panama sur la question migratoire. Grégoire Pourtier, Panama, RFI.
Donald Trump, qui se rêve aussi en celui qui saura régler la guerre à Gaza.
Il recevra dans les prochains jours le Premier ministre israélien, qui sera le premier dirigeant étranger à se rendre à la Maison Blanche. Benjamin Netanyahou discutera avant avec l'émissaire américain Steve Witkoff. Début dès demain des négociations pour la deuxième phase de la trêve entre Israël et le Hamas. Et pour régler la situation à Gaza, Donald Trump continue de faire pression pour que les Palestiniens de l'enclave soient déplacés en Égypte ou en Jordanie. À ce sujet, une coalition de pays arabes, dont des poids lourds régionaux, lui ont adressé une fin de non-recevoir à Riyad. Joseph Clément.
Merci, mais non merci. Réunis dans la capitale égyptienne, les représentants de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de l'Égypte, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, ainsi que de l'autorité palestinienne et de la Ligue arabe, les participants ont publié un communiqué commun. « Nous rejetons toute tentative, écrivent-ils, de compromettre les droits inaliénables des Palestiniens, quelles que soient les circonstances ou justifications. » Difficile de ne pas voir dans ces lignes une réponse au plan de Donald Trump, qui expliquait vouloir alléger le fardeau des Gazaouis, obligés de vivre dans une enclave aux bâtiments pour la plupart détruits, en leur proposant d'émigrer en Jordanie ou en Égypte. Les cinq pays arabes associés au communiqué veulent la prolongation du cessez-le-feu, une reconstruction de Gaza, le tout pour aboutir à la création d'un État palestinien dans la droite ligne des résolutions de l'ONU. C'est donc la réponse officielle des pays arabes envoyés à la Maison Blanche. Reste que la majorité des habitants de Gaza dorment sous des tentes actuellement et qu'une reconstruction prendra vraisemblablement plusieurs années. Joseph Clément, Riyad, RFI.
À Gaza, Gaza où les bombardements ont cessé depuis maintenant 2 semaines dans le cadre de la trêve entre Israël et le Hamas. Le poste frontière de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, a rouvert hier pour permettre l'évacuation de blessés palestiniens qui seront soignés au Caire. La journée d'hier a aussi été marquée par de nouvelles libérations d'otages israéliens et de détenus palestiniens. L'armée israélienne, elle, poursuit dans le même temps une opération en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne déplore 5 morts dans des frappes israéliennes près de Jenin. En tout, cette offensive, depuis le 21 janvier, a fait 25 morts, toujours selon les chiffres palestiniens.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la menace du M23 au sud Kivu.
Les combats font rage dans la province entre l'armée congolaise et le M23, soutenu par l'armée rwandaise, ce qui conduit des milliers de personnes à Bukavu à s'enrôler dans l'armée.
Alors que le Burundi craint une guerre régionale.
Évariste Ndayishimiye, président burundais, a mis en garde contre la menace d'une guerre étendue jusqu'au Burundi, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Il assure que son pays ne va pas se laisser faire. Une guerre qui s'invite aussi dans le sport. Les autorités congolaises ont demandé à plusieurs clubs de foot européens de mettre fin à leur partenariat avec le Rwanda. 3 clubs sont particulièrement dans la ligne de mire des autorités congolaises. Alexandra Brangeon.
3 clubs en partenariat avec le Rwanda et dont les maillots arborent la marque Visite Rwanda, sponsorisée par l'Office de tourisme rwandais. Arsenal, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Dans une lettre adressée au club en question, la ministre des Affaires étrangères congolaise interpelle les présidents de ces clubs et leur demande d'interroger la moralité de ces accords de sponsoring alors que le Rwanda mène une guerre dans l'est du Congo. La culpabilité du Rwanda dans ce conflit est devenue incontestable, écrit Thérèse Kayikwamba Wagner. Votre sponsor est directement responsable de cette misère, ajoute-t-elle. Il y a quelques jours, une pétition en ligne a été lancée en France par un supporter du PSG qui dénonce la responsabilité du Rwanda dans cette guerre à l'est du Congo et demande au président du club de ne pas renouveler son partenariat avec Kigali qui doit prendre fin à l'issue de la saison en cours. Alexandra Brangeon, Kinshasa, RFI.
Au Soudan, 54 morts, au moins 158 blessés lors d'un bombardement sur un marché près de Khartoum. C'était hier à Omdurman. Le ministère de la Santé soudanais qui a publié ce bilan attribue l'attaque aux forces de soutien rapide du général Emeti. Bilan provisoire, alors que les négociations entre les belligérants sont au point mort et que les combats pour le contrôle de la capitale se poursuivent. Le Pakistan, secoué par une nouvelle attaque des séparatistes baloutches, 18 paramilitaires ont été tués hier au Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays, une région en proie à des violences récurrentes.
C'est le deuxième plus large rassemblement musulman au monde et il se déroule au Bangladesh.
Des dizaines de milliers de fidèles sont réunis pour le Bishwa Ijtema. La première phase vient de s'achever. Ses fidèles viennent y prier, y écouter des prêches, parfois même se marier, Nicolas Roca.
Une nuée de tentes et des fidèles qui prient à perte de vue sur les rives ensablées de la rivière Tourag. Depuis les années 1950, tous les ans, ce paysage envahit la ville de Tongi, juste au nord de la capitale du Bangladesh, Dhaka. Le Bishwa Ijtema, deuxième plus grand pèlerinage musulman au monde, se déroule en plusieurs phases entre prêche et prière. Le coup d'envoi de cette nouvelle édition du pèlerinage a été donné lors de la prière hebdomadaire du vendredi. Une cérémonie de mariage de masse a eu lieu ce samedi, avant la prière clôturant la première phase ce dimanche. L'événement se poursuit du 3 au 5 février, puis du 14 au 16. Plus de 2000 musulmans de 72 pays ont déjà rejoint le Bangladesh, dont des figures religieuses venues d'Inde et du Pakistan, alors que d'autres continuent d'arriver. Ce rassemblement de masse est un vrai défi logistique et pose de graves problèmes de contrôle des foules. 4 fidèles sont morts lors des 2 premiers jours du pèlerinage.
Nicolas Roca. Alors que dans le même temps, dans le pays voisin se poursuit le pèlerinage de la Kumbh Mela, le plus grand du monde qui réunit des millions d'hindous. En France, le Premier ministre risque la censure. François Bayrou va avoir recours au 49.3 pour faire adopter les budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Cet article, le 49.3, lui permettra donc de les adopter sans passer par le vote des députés. Et c'est ce qu'il annonce dans le journal La Tribune dimanche.
Et puis ce soir aux États-Unis, le Graal à la forme d'un gramophone doré.
Le trophée des Grammy Awards, les récompenses américaines de la musique. 94 statuettes seront distribuées. Et dans cette compétition, Beyoncé ou Taylor Swift, faites vos jeux. Julien, les deux chanteuses s'affronteront une nouvelle fois pour le meilleur album de l'année. Beyoncé nommée d'ailleurs dans 11 catégories. Petit résumé de ces nominations avec Olivier Roger.
Queen Bee est déjà l'artiste la plus récompensée de tous les temps, avec 32 gramophones dorés sur ses étagères, un record qu'elle pourrait améliorer cette année, puisqu'elle est en lice dans 11 catégories, dont celle du meilleur album pour Cowboy Carter, hommage aux racines afro-américaines de la musique country. Mais Beyoncé n'est pas seule, les artistes féminines sont en force cette année, Taylor Swift, Billie Eilish, Charlie XCX ou encore la révélation Sabrina Carpenter sont de sérieuses prétendantes. Côté R&B et rap, là aussi la concurrence est féroce. Kendrick Lamar, habitué des récompenses, se distingue avec 7 nominations, dont 5 pour le seul titre Not Like Us. La pyramide des âges côté rappeur est très large entre le vétéran Eminem, 52 ans, et la Benjamin Dechy, 26 ans. 94 Grammys seront remis cette nuit aux artistes du monde entier. Le Nigeria est assuré de repartir avec une récompense, puisque dans la catégorie de la meilleure performance musicale africaine, les nommés sont tous originaires de ce pays, parfois en collaboration avec des Américains. Enfin, Justice, mais aussi le groupe de métal Gojira, défendront les couleurs de la France.
Et on entend le groupe de métal français Gojira avec son titre A Saira qui avait connu un succès mondial interprété lors de la cérémonie des JO de Paris. Et notez que Beyoncé, à quelques heures de cette cérémonie des Grammys, vient d'annoncer une tournée pour 2025, annonce il y a quelques minutes sur son compte Instagram.
Et la billetterie explosera sans doute comme la dernière fois. Merci beaucoup Marion Cazanov, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau point sur l'info africaine dans moins de 20 minutes. D'ici là, cap sur le Tchad dans ligne de défense. Alors que la France a rendu cette semaine les clés de sa dernière base dans le pays, les derniers soldats sont partis, la fin d'une présence militaire de très longue date que nous racontera Franck Alexandre. À suivre d'ici 6h30, temps universel également, notre tour du monde des correspondants à la rencontre des diasporas chinoises du monde, puisque depuis mercredi, c'est le nouvel an lunaire. Mais tout de suite, les sports. Avec vous, Victor Messistrano, à la une, le football et le coup d'arrêt du Real Madrid hier soir.
Une défaite 1-0 sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. Kylian Mbappé et ses coéquipiers voient leur dauphin madrilène de l'Atlético revenir à un point. L'Atlético qui a disposé un peu plus tôt de Mallorca 2-0 avec notamment un lob magnifique d'Antoine Griezmann. Aujourd'hui, le FC Barcelone qui complète le podium reçoit Alavés à 13h temps universel.
Le futur adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions, Manchester City, est confronté lui lui a un gros test cet après-midi.
Avec la réception d'Arsenal, des Gunners deuxième et sous pression après la victoire de Liverpool hier 2-0 avec un doublé de l'inévitable Mo Salah. Derrière la surprise, Nottingham Forest est revenu à hauteur en humiliant Brighton 7-0. Alors Arsenal doit prendre des points face à City qui semble sorti de sa longue période de crise. L'entraîneur du club londonien Mikel Arteta sait que ce match va compter.
Ça nous donnerait de l'énergie pour la suite. Gagner des gros matchs, c'est toujours particulier. Chaque fois que nous disputons un gros match, ça nous apporte ce petit truc en plus. De la confiance, de l'émotion. Le fait d'y parvenir et d'enchaîner les victoires, c'est notre objectif.
Arsenal, Manchester City, coup d'envoi 16h30 temps universel. À 19h45 TU en France, Marseille reçoit Lyon. L'OM a vu Paris prendre le large hier. Le PSG qui compte désormais 13 points d'avance après sa victoire à Brest, 5 buts à 2. Triplé d'Ousmane Dembélé, le deuxième coup du chapeau d'affilée pour le Français après celui de Stuttgart cette semaine avec 14 réalisations. Il est désormais le meilleur buteur de la Ligue 1. Autre triplé, celui du Danois Mika Berret pour aider Monaco à battre Auxerre 4 buts à 2.
L'actualité sportive ce dimanche, c'est aussi l'épilogue du mondial de handball.
Croatie-Danemark, l'affiche de la finale à Oslo en Norvège. Champions olympiques à Paris, les Danois visent un quatrième titre consécutif. Coup d'envoi 17h, temps universel. À 14h, le Portugal et la France vont se disputer la médaille de bronze. Et puis en rugby, suite et fin de la première journée du tournoi des 6 nations, l'Écosse a dominé hier l'Italie 31-19 et l'Irlande, double tenant du titre, a pris le meilleur sur l'Angleterre 27-22.
Et puis c'est un week-end de judo qui se poursuit à l'Accor Arena de Bercy.
Oui, le Paris Grand Slam, 6 mois après les Jeux de Paris, quelques médaillés olympiques sont de la partie, notamment le français Maxime Gaël, Gaïap Ambou en bronze chez les moins de 90 kilos et en or par équipe au JO. C'était à l'Arena du Champ de Mars. Aujourd'hui, c'est donc à Bercy qu'il reprend la compétition avec désormais l'ambition de confirmer ses bons résultats.
Ça sera pas pareil que les Jeux, parce que les Jeux c'était spécial, c'était une ambiance qu'on n'avait jamais connue. Mais ouais, ça va nous remémorer les instants de ces Jeux Olympiques. Donc ouais, on a hâte de combattre dans cette arène. J'ai entendu que pour certaines personnes c'était compliqué, mais moi pour ma part, j'ai vite tourné la page de ces Jeux Olympiques de Paris. En fait, j'ai pris le temps de profiter quand j'étais en vacances avec mes amis, mes proches. Et dès que je suis rentré à l'entraînement, je me suis dit qu'on était reparti pour 4 ans et qu'il fallait encore bosser pour aller chercher beaucoup de médailles. J'ai pas encore mon cadre de champion du monde ou champion olympique à l'INSEP. Du coup, c'est ça qui me motive tous les jours d'avoir mon cadre et c'est pour ça que je m'entraîne fort tous les jours.
Des propos recueillis par Eric Mamrut. Enfin, je termine en basket. C'est un séisme en NBA. Julien, les médias américains l'ont annoncé il y a quelques minutes à peine. Le meneur des Dallas Mavericks, le Slovène Luka Doncic, transféré chez les Los Angeles Lakers. Autre star, le pivot américain Anthony Davis fait lui le chemin inverse.
Merci Victor Missistrano. Cette semaine, l'armée française a donc rétrocédé jeudi sa dernière base militaire à l'armée tchadienne. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
Le départ du camp Kossé à N'Djamena vient boucler une présence militaire française historique au Tchad.
150 ans, Julien, d'une présence militaire continue. 1885, c'est la course au clocher, selon la formule de l'époque, rappelle l'historien Christian Bouquet. Trois colonnes militaires françaises s'élancent alors à travers l'Afrique.
Une qui partait du sud, une qui partait de l'ouest et du Sénégal, et l'autre qui partait du nord, c'est-à-dire d'Algérie. Et c'est celle qui venait d'Algérie qui a rejoint les autres d'abord au niveau du lac Tchad et ensuite au niveau de la bourgade qui allait devenir N'Djamena, après s'être appelée Fort Lamy. C'est cette dernière colonne, en fait, qui avait été impressionnée par les fameux guerriers du désert. Alors, à partir de là, il y a eu une certaine admiration pour ces gens qui se battaient et qui n'avaient pas peur de mourir.
Lieutenants et capitaines français, véritable colonne vertébrale d'une administration coloniale, vont façonner l'immense territoire tchadien et l'indépendance n'y changera rien.
Après l'indépendance de 1960 et pendant 3 ans, toute l'immense région nord du Tchad, c'est-à-dire le Borku et Nedi Tibesti, avait comme préfet un colonel français, le colonel méhariste Jean Chapelle. Et puis ensuite, assez rapidement, à la fin des années 60, l'instabilité était grande et on a fait revenir cette fameuse mission de réorganisation administrative en 69. C'est le général de Gaulle qui a accédé à la demande de Tombalbaye. Et on a renvoyé des administrateurs coloniaux, souvent dans leurs anciens postes, pour essayer de rétablir l'ordre.
Et Franck, le Tchad va servir de creuset à l'armée française.
Opération Bison, Taco, puis Manta contre la Libye du colonel Kadhafi. Il y eut ensuite Épervier pour protéger les régimes d'Idi Senabré et d'Idriss Déby face au groupe rebelle, le Tchad au centre du grand jeu, Julien, même l'opération Barkhane au Sahel avait son état-major, N'Djamena, tous les officiers français y sont passés, se souvient le colonel des troupes de marine, Pierre de Jong.
Le Tchad, c'est une partie de ma jeunesse, mais aussi la jeunesse de tous les officiers français. La professionnalisation de l'armée française vient en partie des combats de 109 au Tchad, parce qu'on avait la Légion étrangère, mais il y avait des besoins, donc il a fallu professionnaliser une partie de l'armée française, dont le 3e régiment d'infanterie de marine qui avait un vrai besoin. Et donc cette construction autour de Tchad a fait qu'évidemment, l'histoire de l'armée française s'est inscrite dans l'histoire du Tchad. Il y avait un vrai attachement. C'est un pays magnifique en plus. Le nord, le sud, vous faites 100 km, vous avez un paysage différent. En termes géostratégiques, on voit bien que le Tchad est déterminant. Qui est au Tchad peut rayonner dans l'ensemble de l'Afrique. On voit bien l'utilité pour l'armée française d'être présent au Tchad.
Entre le Tchad et l'armée française, c'est donc une histoire intime, relève l'historien Christian Bouquet.
C'est quelque chose qui relève de l'émotion. Il y a tellement eu d'opérations et d'interventions militaires françaises sur ce territoire, qui en plus est un territoire géographiquement très attachant, avec cette zone sahélienne et toute cette zone saharienne. Depuis que le commandant Lamy était mort sur les bords du fleuve Chari, il y a toute une mythologie qui fait que les militaires français ont un petit coup au cœur.
L'armée tchadienne est la plus efficace de la région, assurent les officiers français prêts à ouvrir un nouveau chapitre de la relation militaire franco-tchadienne qui, pour la première fois, Julien, se fera sans présence permanente.
Ligne de défense, Franck Alexandre, merci beaucoup. Et bonne année du serpent de bois, nous y sommes entrés mercredi. Cette semaine, plus d'un milliard d'humains fêtaient le nouvel an lunaire, en Chine bien sûr, mais aussi dans le monde entier, car la diaspora chinoise est estimée à 40 millions de personnes à travers la planète, et elle est très diverse, qu'elle soit ancienne ou récente, et selon les pays d'implantation. C'est notre tour du monde des correspondants, qui commence ce matin à New York, aux États-Unis. Les premiers immigrants chinois y ont été enregistrés dans les années 1830. Ils sont arrivés en nombre un peu plus tard avec la ruée vers l'or des années 1870, avant l'explosion à partir de la fin des années 60 et la levée des quotas. Résultat, avec entre 90 000 et 100 000 personnes, c'est sur l'île de Manhattan à New York qu'on trouve la plus grande concentration de Chinois hors d'Asie. Et Karine Auton, l'influence de cette population est tellement importante que désormais le nouvel an lunaire est férié dans toutes les écoles de l'État de New York.
Oui, la gouverneure Catherine O'Cool a cédé après des années de pression. Il faut dire que 600 000 personnes d'origine chinoise sur toute la ville, ça compte politiquement. Depuis 30 ans, New York City fournit d'ailleurs les programmes et bulletins électoraux en langue chinoise. Le Chinatown de Manhattan a été victime de la hausse des prix de l'immobilier et les Chinois ont déménagé. La grosse pomme compte maintenant 9 Chinatown en tout, comme à Brooklyn, à Sunset Park par exemple, qui ressemble aux rues de Shanghai il y a 20 ans, ou à Flushing dans le Queens. Flushing a d'ailleurs dépassé Manhattan en taille et c'est devenu la destination numéro 1 des migrants chinois et en particulier des Ouïghours de confession musulmane fuyant la répression religieuse depuis l'an dernier. L'influence de Pékin n'est pas loin dans ces quartiers. Il y a 2 ans, 3 faux commissariats qui étaient en fait des centres d'espionnage du parti communiste chinois ont été démantelés.
Karine Auton à New York et un peu plus au sud, on part au Pérou où l'implantation de la communauté chinoise remonte au milieu du 19e siècle, Martin Chabal.
À l'époque, on les appelait les coolies. Après l'indépendance du Pérou en 1821 et l'abolition de l'esclavage 30 ans plus tard, environ 100 000 Chinois traversent le Pacifique presque de force pour travailler dans les champs de coton et de canne à sucre, alors en manque de main-d'œuvre. Ils y sont exploités, ils travaillent dans des conditions épouvantables. Mais de là, une réelle communauté chinoise se forme, et ce, malgré le racisme et les discriminations. Peu à peu, la culture chinoise se mêle à celle du Pérou. Aujourd'hui, impossible de se balader dans les rues de Lima sans voir un restaurant Chifa où la cuisine péruvienne est fusionnée aux techniques chinoises. Et la communauté chinoise et de leurs descendants, qu'on appelle les Toussans ici, est estimée à près de 3 millions de membres, presque autant qu'aux États-Unis. Ces dernières années ont aussi vu de nouveaux immigrés chinois poser leurs valises au Pérou. Les échanges économiques vont bon train entre les deux pays. Le symbole, c'est ce nouveau mégaport ouvert par la Chine sur les côtes du Pérou il y a quelques mois. On y attend de nombreux travailleurs chinois dans les prochaines années.
Martin Chabal au Pérou. Et cette semaine, le nouvel an lunaire était aussi fêté dans le Pacifique Sud, où les communautés chinoises et vietnamiennes sont installées de longue date. C'est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie, Charlotte Menvie.
arrivés comme cuisiniers ou charpentiers sur les goélettes des Santaliers ou encore sur des navires de pêche aux bêches de mer, les holoturies, très prisées dans la cuisine asiatique. Les premiers Chinois s'installent en Nouvelle-Calédonie dès 1840, c'est-à-dire avant même le début de la colonisation française. Au milieu du XXe siècle, c'est une autre communauté asiatique, vietnamienne cette fois, qui supplante la communauté chinoise, des Vietnamiens que l'on appelle Chandang, venus travailler sur les mines de nickel de l'archipel dans des conditions particulièrement rudes, mais qui ont réussi à largement s'intégrer. Beaucoup de Chinois et de Vietnamiens qui ont fait souche se sont reconvertis dans le commerce ou la restauration après la mine et dominent aujourd'hui à ce point le marché que la plupart des Calédoniens qui déjeunent le midi à l'extérieur le font dans des snacks ou des restaurants asiatiques.
Charlotte Manvi à Nouméa. Et puis pour finir, direction Madagascar où la communauté chinoise des grandes villes célèbre le nouvel an à partir d'aujourd'hui. Des célébrations empreintes d'un métissage façonné sur plus de 3 générations, Sarah Teto.
Sur l'île, ils se font appeler les vieux Chinois, en opposition avec les nouveaux Chinois arrivés du nord de la Chine dans les années 90. Les vieux Chinois, eux, ce sont les anciens, ceux qui ont migré en famille à la fin des années 1800 pour prendre part à la construction des chemins de fer. Ils viennent de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et restent particulièrement attachés à la tradition du Nouvel An. Mais en l'espace d'un siècle, eh bien, ces familles de vieux Chinois se sont métissées au fil des unions, et la culture malgache s'est petit à petit mêlée aux traditions du Céleste Empire. C'est le cas notamment avec les kabars, type de discours malgache très poétisé et codifié, qui sont déclamés désormais pour lancer les festivités du Nouvel An. Et si les mets consommés restent typiquement chinois, l'ouverture du bal se fait systématiquement au son d'un afinja-finjao, la danse traditionnelle malgache par excellence, qui marque le coup d'envoi de toutes les fêtes sur l'île. La mélodie « On jouait » fait partie intégrante aujourd'hui des festivités de la communauté chinoise.
Sarah Teto à Madagascar et notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Et bientôt 6h30, en temps universel, le journal dans 4 minutes, mais d'abord c'est dans ta nature comme chaque dimanche. Saviez-vous que quand un bébé crie, les crocodiles accourent? Ce n'est pas un proverbe, mais le résultat d'une expérience scientifique sur la perception des émotions chez les animaux. Florent Guignard.
Quand un bébé pleure, vous le prenez dans vos bras pour le consoler. Les crocodiles aussi se précipitent, mais pour une toute autre raison, comme l'a montré une étude réalisée pour confirmer une hypothèse du naturaliste Darwin au 19e siècle.
On estime que l'ensemble des vertébrés ont un appareil vocal qui est assez proche. Différentes espèces de vertébrés seraient capables d'une certaine manière de communiquer entre elles. En tout cas, de comprendre un message émotionnel véhiculé par les cris des différentes espèces animales.
Nicolas Grimaud est chercheur au CNRS. Il fait partie de l'équipe du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon qui a réalisé cette expérience avec des crocodiles du Nil, au zoo d'Agadir, au Maroc, en diffusant des cris de détresse de chimpanzés ou de petits d'hommes. Et le résultat fut sans appel.
Parfois, les crocodiles se rapprochaient juste du haut-parleur pour venir voir ce qui se passait. Et parfois, on a eu des attaques assez claires, hein, c'est-à-dire que le crocodile venait et essayait de saisir dans la mâchoire le haut-parleur. Donc, on était obligé de remonter en quatrième vitesse le haut-parleur avec la corde avant qu'il se fasse croquer par le crocodile.
Mieux que nous humains, les crocodiles perçoivent la détresse dans un cri et c'est un avantage indéniable pour ces prédateurs partisans du moindre effort, Nicolas Grimaud.
Les crocodiles sont des animaux à sang-froid et donc ils économisent toujours beaucoup leur énergie. Ils sont opportunistes et vont aller au moindre effort pour se nourrir. Donc plus un animal va être potentiellement en détresse et donc blessé ou sans la surveillance de la femelle, par exemple, pour les bébés, plus il va être une proie facile.
Une expérience similaire avait été réalisée aux États-Unis avec des biches, mais elle venait porter secours. Les biches, c'est vrai, ne sont pas des prédateurs.
Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis.
On passe à la question.
Je parle bien le mamané ?
Ah, c'est pas mal, hein. Le mamané, ce n'est pas la langue de maman, mais la langue des mamans, la façon qu'ont les humains de s'adresser au bébé avec une voix plus aiguë, plus chantante. Ce parler bébé qui facilite la communication, on a découvert qu'il était aussi pratiqué par les femelles dauphins qui élèvent seuls leurs petits pendant plusieurs années. Voici un sifflement normal. et là quand elles s'adressent à leur progéniture. Un exemple de plus des similitudes entre les humains et les dauphins d'anciens mammifères terrestres. Pour autant, les bébés dauphins ne crient pas comme ça. Non, en fait, là, ce qu'on entend, ce n'est pas un bébé qui pleure, mais un oiseau lyre, connu pour ses talents d'imitateur. Il manquerait plus qu'il attire les crocos.
Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles.
Sur un air de Julien Doré, Florent Guignard, Pensez dans ta nature, que vous retrouvez chaque dimanche sur RFI et le journal dans 30 secondes.
Géopolitique.
Depuis 10 ans, le nombre d'armes nucléaires dans le monde est en augmentation. Après la fin de la guerre froide, le facteur nucléaire semblait avoir perdu de son acuité. Mais depuis l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, le contexte mondial est venu réinstaller cette arme au centre du jeu international. La prolifération nucléaire était l'un des grands enjeux de sécurité de notre temps.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.